Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, version estivale de l'émission. Je vous explique, c'est l'été, on prend le temps et surtout on cherche le livre qui peut-être va nous bouleverser et qui sait, nous changer éventuellement. Pour ça, il faut fouiller et chaque semaine, Héloïse Goy et Sébastien Bordenave nous donnent des bonnes idées de romans jeunesse pour l'un, de bandes dessinées pour l'autre. Vous les connaissez, trois romans jeunesse pour Héloïse, trois BD pour Sébastien, mais en plus, Vénard, un libraire de l'équipe se joint à nous. Pour trois bons romans, aujourd'hui, c'est l'immense Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris, qui est avec nous. Et ensuite, bibliothèque. Nous réécouterons des visites de bibliothèque des dernières années. Cette semaine, celle de Nathalie Dessay, la cantatrice, et MC Solar, Claude MC, le rappeur. Et ils sont tous là, avec moi, Sébastien Bordenave.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Et Stanislas Rigaud, qui lui est par ligne depuis sa librairie. Bonjour Stan.
Bonjour.
Bon bah il n'y a qu'à se pencher pour nous proposer un bon roman. Vous avez tout sous la main là, par lequel on commence?
Alors, je voulais commencer par une comédie, parce que c'est assez rare comme ça, et un très bon livre de vacances qui s'appelle La brillante destinée d'Elisabeth Zott,
wow,
de Bonnie Garmus aux éditions Robert Laffont. Alors, bon, on est d'accord, hein, avec un nom pareil, on peut couvrir le livre. Bonnie Garmus,
Bonnie
parce que
Garmus.
C'est pas un nom d'auteur, ça. Et donc, c'est un livre qui va vous raconter au travers du destin d'une femme dans les années 50 aux États-Unis. Effectivement, toute une société, puisque cette femme est destinée à devenir une brillante scientifique. Et en fait, elle va devenir, et c'est l'ouverture du livre, puisqu'on va revenir à rebours, elle va devenir une présentatrice vedette de la télévision américaine, présentatrice d'une émission culinaire que le pays entier va se mettre à regarder. Mmh. Alors, voilà, c'est joyeux, c'est mené pied au plancher, mais alors ce qui fait la force du livre, c'est que c'est souvent imprévisible. Et notamment, l'auteur a la bonne idée de glisser des séquences assez dures, assez émouvantes, qui contrebalancent avec le ton allègre du livre, mmh, et qui rendent le personnage encore plus attachante. C'est voilà, c'est d'habitude ce genre de roman, on a plutôt l'habitude de romans anglais pour les vacances. Et ici, on a vraiment la comédie américaine. C'est vraiment américain, hein. Les années 50, on s'y voit, on y est. Et c'est à découvrir de toute urgence. À mon avis, c'est un rôle à Oscar direct. Hein.
Mais c'est aussi très drôle.
Et c'est aussi drôle, tout à fait, oui. Je trouve que le livre se tient en bon équilibre. On commence comme une comédie, bim, on va prendre une première scène un peu difficile. On va se dire, mais alors, attends, c'est pas drôle, mais si, quand même, ça repart et rebime. En fait, donc on est toujours un petit peu aux aguets. Et alors, bon, forcément, au travers de cette femme au destin très fort, puisqu'il y a une femme qui prend son destin en main dans un milieu scientifique extrêmement machiste, voire violent, et qui devient effectivement une icône, mais à sa manière. Et forcément, ce portrait de cette femme rebelle a beaucoup d'écho avec le retour du féminisme d'aujourd'hui.
Mais ça vient de sortir, ce bouquin, ou c'est un de vos livres de chevet?
Non, alors c'est un livre que j'ai découvert il y a un mois et demi, grosso modo, qui était sorti au cours d'année, mais alors totalement inaperçu. Je crois que ça a été plutôt un beau succès aux États-Unis. Depuis qu'on l'a pu à la librairie, le bouche-à-oreille est très très bon. Mmh. Donc on est forcément plus confortable là-dessus. Et je pense que cet été, ça devrait très très bien marcher.
Bonnie Garmus, qu'on adore, La brillante destinée d'Elisabeth Zott, c'est chez Robert Laffont. Vous me l'avez bien vendu, Stan. Vous me le réservez.
Merci.
À la librairie Lamartine. Merci beaucoup. Héloïse Goy, on enchaîne avec vous.
Ah bah oui, vous nous parlez de Bonnie Garmus. Il faut que je vous dise que ma chienne s'appelle,
oui,
Bonnie. Alors, je vous parle d'un livre qui s'appelle Un chien dans un jardin. Tout est calculé, tout est préparé avec Stan. C'est un livre pour les tout petits, hein, dès 2 ans. C'est de Patricia Storms et Nathalie Dion. C'est un petit album illustré de 36 pages avec très peu de texte qui nous glisse dans la peau de César, un petit chien adorable. C'est une sorte de petit beagle. Et c'est pas si mal d'être un chien. On se fait tout de même moins de nœuds à la tête. Pas besoin de se demander ce qu'on va manger ce soir avec un frigo.
Je voudrais être un chat, moi.
Oui, c'est pas mal aussi. Pas de pression de ses parents qui décidément se demandent quand est-ce qu'on va finir par trouver quelqu'un. Parce que bon, et puis quand on est un chien, pas besoin de se forcer à aller déjeuner chez sa belle-mère tous les dimanches. Non, la vie de César est bien plus simple. Elle se résume grosso modo à dormir, manger, se balader et se faire papouiller, voire gratouiller derrière les oreilles. Sa phrase préférée, c'est quand sa maîtresse lui dit « Viens César, on sort ». Ça, c'est sa phrase magique. Et ce qui est très touchant dans ce livre, c'est que les dessins...
Vous le faites avec le ton de la maîtresse du chien. Allez, viens, mon petit.
Bah, c'est ça. Bon, on l'entend quand on le lit. Et ce qui est très touchant
Alors,
dans ce livre...
Alors, je précise que Héloïse Goy se déplace à vélo électrique et elle a un petit panier sur son guidon avec son chien dedans, Bonnie.
Un panier spécialement conçu pour les chiens, pour ne pas dire pour ma chienne. Et ce qui est très touchant, c'est que les dessins parviennent très bien à montrer l'amour de César pour sa maîtresse. Et vous le savez, hein, les relations entre les chiens et leur maître ne me laissent pas insensible. On embrasse Bonnie, hein, qui nous écoute fidèlement et qui a tendance à me regarder comme personne ne m'a jamais regardé, je le précise. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ce livre, c'est pour ça que ça m'a touchée. Et justement, ce regard que porte César à sa maîtresse est reflété avec beaucoup de douceur et de poésie dans ce livre qui se passe presque de mots. On passe beaucoup de temps à regarder les émotions qui se dégagent des dessins. Les traits sont délicats, toutes les illustrations sont à la gouache. Et comme la maîtresse de César est jardinière, eh bien cet album coloré nous plonge dans une nature luxuriante. On se croirait parfois dans le jardin de Claude Monet à Giverny. C'est comme un moment suspendu, c'est un petit livre lumineux, joyeux, subtil et très touchant. Un chien dans un jardin.
Il y a des dessins ou c'est un roman
C'est que des dessins, il n'y a presque pas de texte.
Ah d'accord, ok.
C'est que des dessins, c'est pour ça que je disais qu'on se plonge vraiment dans les illustrations à la gouache, dans les jardins. Un chien dans un jardin de Patricia Storms et Nathalie Dion, c'est aux éditions 2D'EUX.
Parfait, merci beaucoup Héloïse. On a fait Stan, on a fait Hello, c'est le tour de Sébastien Bordenave et sa bande dessinée.
Vous nous refaites un « Viens César, on sort
». Viens César, on sort.
On a envie de faire une promenade tout de suite. Et ben moi, une BD publiée chez un éditeur qui s'appelle Ça et là. Le titre de la BD, c'est « Changement de saison » de Lee Gond-hun et Jeong Yi-yong. Nous sommes donc en Corée, ce sont des manhwaga, ces gens-là. Alors, rappelle qu'un manga, c'est japonais, qu'on appelle le dessinateur d'un manga un mangaka, et que la BD coréenne, c'est un manhwa, et que le dessinateur est donc un manhwaga.
Génial.
Vous allez me dire, on s'en fout, c'est pareil.
Ah non, j'adore.
Bah oui, mais surtout, c'est pas pareil, parce que un manga, parfois, on galère parce qu'on doit lire de la droite vers la gauche, alors qu'un manhwa, une BD coréenne, on le lit comme une BD européenne, normalement, vers la gauche, vers la droite. Voilà une info essentielle pour commencer cette chronique.
Mais pourtant, les dessins ressemblent à ceux des mangas, c'est ça ?
Oui, oui. Après, chaque dessinateur a sa personnalité, mais en tout cas, la lecture est la même.
D'accord.
La BD Changement de saison a eu tellement de succès en Corée qu'elle a été adaptée en film. Ça s'est appelé In Between Seasons. L'intrigue mériterait presque de ne pas être résumée tellement il est bon de se laisser surprendre par l'histoire.
Oui, vous allez bosser quand même, ça.
Mais quand même, ce sont deux amis de terminale, l'un est orphelin et particulièrement bien élevé, l'autre a une maman qui va considérer l'ami de son fils un peu comme le sien. Tout va devenir très complexe quand l'ado, qui n'est pas orphelin, tombe dans le coma suite à un accident de moto et quand la mère va apprendre qu'en fait les deux garçons sont en couple. Et donc, va pas le prendre bien du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va y avoir beaucoup de non-dits, beaucoup de silence, beaucoup de rancœur, beaucoup de douceur aussi. C'est pas la BD la plus drôle de l'été, mais un peu de vague à l'âme, un peu de profondeur, un peu de subtilité, ça fait pas de mal pour ce manhwa très réussi. Ça s'appelle Changement de saison chez Ça et là.
Le manga coréen, donc vous me dites
Manhwa,
il faut que je retienne. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Héloïse, le titre du livre ?
Un chien dans un jardin. C'est de Patricia Storms et Nathalie Dion aux éditions 2.
Parfait. Et Stan, est-ce qu'on peut avoir de nouveau le titre de Bonnie Garmus ?
Alors, la brillante destinée d'Elisabeth Zott chez Robert Laffont.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, toujours avec Héloïse Goy pour la littérature jeunesse, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée et Stanislas Rigaud à la librairie Lamartine par ligne, grâce à la technologie de Boris Paczynski, notre réalisateur. On reprend avec vous, tiens,
oui,
Sébastien,
si vous voulez.
Avec une bande dessinée.
Une deuxième BD qui s'appelle Hawaï Solitude.
Wow.
Elle est d'une beauté absolue, de cette beauté qui se joue des ambiances, des couleurs bleues, neutres, où jaillissent parfois de l'ocre orangé, la justesse du dessin, le génie du cadrage, la perfection du rythme. Que de compliments mérités pour cette BD, mais c'est normal, parce qu'elle est dessinée par R. Kikuo Johnson. Alors, c'est qui ça, R. Kikuo Johnson ?
C'est qui ça, R. Kikuo Johnson ?
C'est tout simplement un illustrateur très connu pour avoir dessiné de nombreuses couvertures du New Yorker, vous savez, ce journal les dessins à la une, on a envie de se plonger littéralement dedans.
Il y a même des posters maintenant de ces dessins.
Exactement. Red Kikuo, donc le dessinateur, travaille à Brooklyn, mais il est né sur l'île de Maui, la deuxième plus grande île des îles d'Hawaï. C'est là où se passe la BD Hawaï Solitude, l'histoire. Une infirmière tente de passer le concours de médecine, mais sa vie est un chaos total. Elle vient de perdre son père, qui était grabataire. Son fils Brandon lui a perdu son chat, qui s'est enfui. Et le frère de la mère débarque. Elle avait d'ailleurs oublié qu'il arrivait. Il vient pour fêter l'anniversaire de son fils. Brandon, d'ailleurs, elle avait oublié aussi que c'était l'anniversaire de son fils. Bref, ça va pas fort, mais la vie va continuer. Une vie en BD, tout en rebondissements et en petits moments magiques d'existence. Hawaï Solitude, chez Gallimard, ça a réussi avec un talent divin à nous projeter hors du temps. C'est vraiment... Allez, je me lance, c'est vraiment esthétiquement la BD sublime de l'été. C'est la BD...
De l'été ou de l'année ?
De l'été.
Ah. Exagéré.
Et c'est en format paysage en plus.
Ouais. C'est original.
Format est super.
Et assez petit et tout.
Assez petit,
chez Gallimard, BD. Bande dessinée, Hawaï Solitude, Erkiko Johnson. Yes. Merci beaucoup Sébastien, c'est magnifique, je vous la garde. Et Stanislas Rigaud, est-ce que vous pourriez juste... tendre votre bras et prendre un roman, puisque vous êtes à la librairie, par ligne, avec nous.
Alors bon, la difficulté quand même de prendre un bon, je ne vous cache pas que je n'ai pas que des très bons romans d'Hawaï.
Comment ?
C'est une légende qui tombe. Alors, on a fait une comédie, et forcément l'autre pendant, c'est comment passer un été sans un polar. Et ben non, c'est pas possible. Donc je vous propose le retour d'un des maîtres de genre, puisque nous avons cette année la joie de retrouver Monsieur Don Winslow avec La Cité en flammes chez HarperCollins. Alors, Winslow avait notamment sorti une trilogie extraordinaire sur la guerre de la drogue au Mexique. Il nous revient cette fois-ci avec un polar plus classique en apparence, mais qui est très très réussi. Un polar qui nous emmène au milieu des années 80 à Providence. Donc, on est grosso modo coincé entre Boston et New York. Et sur ce petit port où les Italiens ont fait la paix avec les Irlandais, au travers des deux patriarches, des deux grandes familles, vivent en paix, prennent le barbecue ensemble, comme le montre le début du livre. Mais bien évidemment, les choses ne vont pas rester comme ça, heureusement pour le lecteur, malheureusement pour les personnages. Et donc voilà, et donc la guerre va se redéclencher entre les deux grandes familles. Alors, c'est le polar à l'ancienne, pétant, des répliques qui tuent comme on fait plus, un peu de crudité, bienvenue. Des personnages qui sont hyper travaillés, c'est hyper... Voilà. Moi, j'adore Winslow. C'est un des auteurs de polar qui, d'abord, écrit le mieux. Il y a toujours une grande ampleur, un sens du rythme. Un bon Winslow, vous le lâchez jamais. Et en plus de ça, là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'après donc cette guerre de la drogue mexicaine avec des centaines de personnages, des milliers de morts, enfin bon, là, on revient à un polar à taille humaine. Puisque les familles qui vont s'affronter sont des familles qui sont pas, où ils sont pas très nombreux, hein, et les enjeux sont quand même plutôt modestes par rapport à la guerre totale qu'on peut avoir à la frontière mexicaine. Donc on a un polar à l'américaine, comme on les aime, mieux des années 80, donc des enjeux de société qui sont pas du tout ceux qu'on a aujourd'hui, et ça fait un grand, grand, grand plaisir.
Stan, vous êtes avec nous depuis le tout début de La Voix et Livre, je crois même la première émission. Et à chaque fois qu'il y a un Don Winslow qui sort, vous m'en parlez. D'abord, est-ce que vous l'avez déjà rencontré ?
Et alors, j'ai eu la joie, oui, il est venu à la librairie. Voilà. Ça a été, voilà, j'étais très impressionné. Oui.
C'est quel genre de type ?
Alors, c'est un petit monsieur qui doit faire 1m65, très élégant. Mais alors, c'est un surfeur en plus, Don Winslow. Une fois qu'il est lancé, vous ne l'arrêtez plus en fait. C'est le type que vous calculez pas quand il arrive et dès qu'il s'installe, il n'y a plus que lui dans la pièce.
Ah oui. Quelle chance de pouvoir rencontrer quand même tous ces auteurs, hein, Stan. C'est vraiment un beau métier. Héloïse Goua, qui en a rencontré pas mal des auteurs aussi. De quoi vous nous parlez ?
Oui, là je vous parle d'une grande journaliste qu'on ne peut plus rencontrer, mais je sais que vous l'adorez.
Je sais.
Allez-y.
Nelly Bly.
Eh oui, je sais que c'est votre chouchoute, Nicolas. Eh bien, je vous parle d'un bel album illustré sur cette femme extraordinaire. À l'occasion du centenaire de sa mort, elle est morte en 1922. Cet album illustré de Jean-Michel Biou et Gabriel Berg rend hommage à la vie, vous le savez, très romanesque, hein, de cette pionnière américaine du journalisme d'investigation, pionnière du féminisme aussi. En 1864, Nelly Bly naît dans un petit village de Pennsylvanie sous le nom, est-ce que vous le saviez ça, Nicolas, d'Elizabeth Jane Cochrane. Elle deviendra Nelly Bly bien plus tard.
Cochrane.
Comment vous dites ?
Cochrane.
Cochrane, vous savez mieux que moi. Et déjà enfant, c'était une petite fille épatante. Hein. Par exemple, elle a affronté son beau-père violent et elle va même réussir à prononcer le divorce avec sa mère en témoignant contre cet homme. Elle a qu'une dizaine d'années. Et c'est à 21 ans qu'elle parvient à se faire engager pour la première fois dans un journal qui s'appelle le Pittsburgh Dispatch. C'est là que naît la Nellie Bly qu'on connaît. Elle commence à enquêter sur les conditions de travail des femmes dans les usines en se faisant passer elle-même pour une ouvrière. Elle milite pour le droit des femmes au travail. C'est une avant-gardiste. On est en 1886. Et c'est aussi la première à inventer le reportage clandestin. On le connaît bien maintenant aujourd'hui, le reportage
journalisme
clandestin.
Journalisme d'immersion. Comme
c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on fait de la caméra cachée. À l'époque, ça n'existait pas. Pour le plus intéressant encore, pour le journal New York World de Joseph Pulitzer, elle va se faire passer pour folle pour se faire interner dans un asile psychiatrique de New York. C'était l'asile de Blackwell Island. Ça s'est terminé bizarrement, je ne vous le raconte pas, je vous laisse le découvrir. Mais dans ce livre, on découvre aussi que Nellie Bly s'est lancé le défi de battre un drôle de record. Vous le savez,
ça. Tour du monde en 72 jours.
Vous n'avez pas besoin de moi, en fait, Nicolas. Effectivement, elle a souhaité battre le record de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, faire le tour du monde en moins de 80 jours toute seule. Est-ce que vous le feriez, vous, sans avion, 40 000 kilomètres?
Non.
Ce qui est rigolo, c'est qu'elle partait avec sa petite valise et sa garde-robe. Ouais, elle était toujours très chic, sa jolie robe. Ouais.
Fin 19e et tout, c'est...
Ah oui, c'est courageux.
Elle prend pas mal de remarques sexistes, d'ailleurs.
Ah oui, oui.
Bah, elle passe voir le couple Verne.
Oui, exact, ouais. Exact. Moi, vous connaissez très bien. Je vous laisse quand même découvrir. Ne le dites pas, Nicolas, si oui ou non, elle a relevé ce défi. Alors évidemment, beaucoup d'encre a déjà coulé sur cette femme exceptionnelle. Il y a eu des dizaines de livres, des biographies, des films. C'est là que vous avez appris toutes ces infos, car je suppose que vous ne l'avez pas côtoyée en vrai, Nicolas. Mais ici,
pas si vieux.
On pourrait croire. Pardon. Mais ici, l'auteur et l'illustrateur s'adressent aux jeunes de 8 à 13 ans. Et ils le font très bien, parce que c'est à travers des illustrations très colorées et ludiques. Et à travers des dialogues percutants qu'ils racontent cette femme.
Et on peut lire Le tour du monde en 72 jours et 10 jours dans un asile aux éditions du Sous-sol.
Voilà. Et moi, je vous parle. Le livre dont je vous parle s'appelle Les grandes vies de Nellie Bly par Jean-Michel Billiou et Gabriel Berger. C'est chez Gallimard.
Parfait. Et pour la BD, on a dit Hawaï, solitude au pluriel chez Gallimard Bande dessinée. Et puis Stan nous a proposé Le Don Winslow, La cité en flammes. C'est chez HarperCollins. On se retrouve dans un instant pour d'autres livres.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, dernier chapitre, et on retrouve Héloïse Goua, Sébastien Bordenave,
c'est lui,
bande dessinée, et notre Stan National qui est à la librairie Lamartine par ligne avec nous. On y va pour votre troisième choix, Stan.
Alors, j'ai pioché un peu plus loin que les deux derniers. C'est un livre qui est sorti en 2016 et qui avait saisi bon nombre de libraires à prendre de salir de nombreux lecteurs. C'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. Et si je vous parle de Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doerr, qui est un des très grands romans américains de la dernière décennie, c'est aussi parce que Anthony Doerr revient enfin et sera une des grandes têtes d'affiche de cette rentrée littéraire 2022. Alors, Toute la lumière que nous pouvons voir, c'est un roman qui va nous emmener au début du XXe siècle et qui, où on va mettre en scène deux enfants qui ne se connaissent pas. D'un côté, il y a une petite fille qui est aveugle et qui vit avec son père qui est serrurier au muséum d'histoire de la ville de Paris, le muséum d'histoire de naturelle, de la ville de Paris. Et la petite fille est aveugle, mais le père, la mère est morte, et le père tient à ce que cette petite fille soit éduquée avec cet handicap, c'est-à-dire ne pas faire semblant, en fait. Et donc, il essaye d'apprendre à sa petite fille l'avantage et comment on se débrouille en étant aveugle. On est dans les années 20-30, donc c'est pas toujours très simple. Et de l'autre côté, on suit un orphelin de la Roure, qui vit dans une petite maison et qui va tomber fou amoureux de la radio. Va commencer aussi bien par l'objet que par les émissions, les transmissions, en fait. Et il va commencer à monter, démonter ses petits appareils et devenir très, très doué là-dessus. Et au travers de ce médium de la radio, les deux enfants vont se rencontrer. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu pleurer à ce livre. D'ailleurs, c'est un truc. Le bouquin vous booste, vous emmène à 200 à l'heure, parce qu'en fait, il est écrit en chapitres très courts. L'auteur expliquait à l'époque que comme il venait d'avoir un bébé, il avait très très peu de temps à lui, et donc il écrivait en chapitres très courts. Alors, c'est un gros piège, comme souvent avec les chapitres très courts. C'est-à-dire, vous vous dites, je l'arrête quand je veux. En fait, vous ne l'arrêtez jamais.
Il y aura encore un petit, et ça va.
Voilà. Et c'est, mais voilà, on vibre avec ces deux gamins, on est emporté. Une grande partie du livre se déroule à Saint-Malo, ce qui a valu à Saint-Malo la visite de beaucoup d'Américains venus voir ce qui se passe. Alors que bon, forcément, le Saint-Malo n'a pas grand-chose à voir avec celui du livre. Vous ajoutez à cela que c'est un roman américain sans personnage américain. Et c'est un peu la question à 1000 dollars du jour. Est-ce que vous êtes capable de me citer un roman américain où il n'y a pas de personnage américain? Eh bien, moi, je ne sais pas. À part Anthony Doerr. Ça paraît bête, mais effectivement, le gamin est allemand, la petite fille est française. Il n'y a pas de personnage américain dans ce livre. Voilà. Alors, ça paraît, mais non, visiblement, les Américains n'écrivent que sur les Américains.
Anthony Doerr, un hymne à la radio, toute la lumière que nous ne pouvons voir au livre de poche, et on le retrouvera à la rentrée littéraire. D'ailleurs, vous êtes prêt, Stan? Vous êtes sur les starting blocks là?
Sur les starting blocks, on a déjà lu plein de choses. On est voilà, c'est on est très très impatient que les choses se déclenchent enfin.
Ça va être une belle rentrée en plus, j'ai l'impression.
Tout à fait. Et le nouveau livre d'Anthony Doerr s'appellera La Cité des nuages et des oiseaux chez Albin Michel. Et il est annoncé comme un chef-d'œuvre.
Ah bah oui, oui, il arrive à fond là. On est tous au taquet. Héloïse Goy, vous hochiez la tête pendant que Stan parlait. Vous avez beaucoup aimé Anthony Doerr.
J'ai lu ce livre et comme vous,
toute
Stan, j'ai beaucoup
que
pleuré.
Nous pouvons voir.
Je l'ai trouvé magnifique. J'ai un très bon souvenir.
Et vous en avez un pour les plus jeunes, peut-être?
Eh oui, un livre qui nous raconte les exploits les plus fous des bêtes à poils. Je ne parle pas de vous. Des bêtes à poils à plumes ou à écailles. Le livre s'appelle Les animaux ont d'incroyables talents. C'est signé Didier Barrault, Christian Demilly et les illustrations sont de Stéphane Kiel. Et moi, j'adore les informations improbables sur les animaux. Je ne suis pas la seule. Hein, déjà, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Des informations qui ne servent pas à grand-chose, mais on est ravis de les avoir. Vous voyez,
des fun facts.
C'est ça. Alors ici, on est gâtés. Ce livre nous raconte 21 histoires fascinantes. Et on découvre que parfois, les animaux sont autant, voire plus ingénieux que les humains. Par exemple, savez-vous de quoi est capable le macaque japonais?
Non.
Il fait des cookies.
Des sushis.
Et pourquoi pas? Eh bien non, comme nous, ces singes nettoient leurs aliments. En 1953, on a observé sur l'île japonaise de Koshima qu'une femelle macaque nettoyait une patate douce dans l'eau de mer avant de la manger. Alors on ne sait pas si c'est pour une question d'hygiène ou une question de goût. Peut-être qu'elle voulait la saler.
Ouais, pour le saler, ouais.
Et les scientifiques pensent que cette femelle a imité les humains en les observant. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis, tous les singes de cette petite île se sont mis à laver leurs aliments. Voilà. Alors qu'avant 1953, visiblement, ce n'était pas le cas. On continue, plus facile, mais je ne pense pas que vous trouviez. Selon vous, quel est l'animal le plus fort du monde?
L'hippopotame. L'éléphant.
C'est beaucoup moins glamour que ça. Quoique l'hippopotame, ce n'est pas non plus...
La fourmi.
Ah oui.
Non.
Proportionnellement.
Vous brûlez. Il s'agit du bousier. Vous savez, c'est cette sorte de petit scarabée qui passe son temps à déplacer son caca. En fait, ils vivent dans leurs excréments, ils s'en nourrissent. Eh bien, tenez-vous bien, le bousier est capable de déplacer une masse équivalente à 1200 fois son poids. Et c'est pas tout. Des scientifiques ont aussi observé que cet insecte pouvait survivre quand on lui roulait dessus avec une voiture. En fait, il a une sorte de carapace construite en puzzle. C'est un puzzle super puissant qui est quasiment incassable.
Alors, il fait des cacas mille fois plus.
Non, il ne déplace pas que son caca.
Ah bon, d'accord.
Il
déplace n'importe quoi.
Ah oui, d'accord.
J'ai pas l'info, je crois.
vérifier.
Vous m'embrouillez. L'important, c'est aussi de savoir si ce livre plaît aux enfants. Alors, j'ai demandé son avis à Mathilde, 9 ans.
Bah, c'est vraiment très bien fait. Et, par exemple, je ne savais pas que la mésange bleue, elle pouvait ouvrir des bouchons de bouteilles en plastique avec son bec. C'est drôle, ça ressemble un peu à des humains. Il parle aussi de concombre de mer. Ils disent que c'est moche, et ça c'est pas nager, son nom est vraiment nul, il est ridicule mais pourtant il est très utile.
Voilà, je vous laisse découvrir dans ce livre pourquoi le concombre de mer au nom vraiment nul, selon Mathilde, est très utile à la planète. Vous apprendrez aussi qu'un corbeau a l'intelligence d'un enfant de 3 ans ou encore qu'il existe des fourmis infirmières.
Génial, vous nous rappelez le titre.
Les animaux ont d'incroyables talents de Didier Barrault et Christian Demilly, c'est chez Casterman.
Génial, à vous Sébastien Bordenave.
Eh bien, ma dernière BD, elle n'est pas encore sortie. Ça sera pour le 14 septembre prochain. Mais alors pourquoi j'en parle? Oui, mais pourquoi j'en parle? Parce que je parle du 7e tome des aventures de Aya de Youpougon. qui va sortir. Et du coup, bah, il faut profiter de l'été pour découvrir et redécouvrir ou réviser son Aya de Youpougon. Et ça tombe bien parce que...
De Marguerite Abouet.
Exactement. Ça tombe bien tout ça parce que Gallimard Bande Dessinée a la super bonne idée de tout rééditer en deux intégrales. Une BD intégrale 1, pim, les trois premiers tomes. L'intégrale 2, les trois suivants. C'est super pratique. Alors, si vous ne connaissez pas Aya de Youpougon, c'est génial. Ça se passe en 78, en Côte d'Ivoire. Aya a 19 ans et la BD raconte sa vie. C'est une jeune fille super sérieuse. Elle veut faire des études pour devenir médecin. Son père a plutôt envie de la marier au fils de son patron, qui aura le dernier mot. Elle a plein de copines. Elles vivent toutes donc à Youpougon. C'est un vrai quartier d'Abidjan. Comme copine, elle a Adjoa et Bintou, beaucoup moins sérieuse que Aya. Elle pense surtout à s'amuser. Quand Adjoa se prépare pour aller danser, son frère lui dit « Regarde-moi ces fesses plates, on dirait une raie ». Adjoa lui répond « Tais-toi avec ta grosse bouche, on dirait un cul de vache ». Ça se chip, ça se chambre tout au long de la BD. Il y a des citations, des proverbes africains. Tout le monde cite le président Oufouet Boigny et il aurait dit par exemple « Pour éteindre un incendie, pas besoin d'eau potable ». Sage parole. En attendant, tout le monde est super excité. Ça va être l'élection de Miss Youpougon. Tout le monde est ravi, sauf Adjoa, parce qu'elle pense avoir le paludisme, mais en fait, elle est enceinte. En plus, le bébé ne ressemble pas du tout à celui qui devrait être le père. Bref, c'est Plus belle la vie avec encore plus de vie et de drôlerie. Et c'est en Côte d'Ivoire.
Parfait, l'intégrale de Aya de Youpougon pour Sébastien Bordenave. Héloïse, on a dit...
Les animaux ont d'incroyables talents chez Casterman.
Parfait. Et chez Stanislas Rigaud, c'était Anthony Dore. Toute la lumière que nous ne pouvons voir au livre de poche.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
La Voix est libre et il est l'heure de réécouter des belles visites de bibliothèque. On commence par celle de Nathalie Dessay, la cantatrice carrément qui nous avait reçus chez elle. Allons-y. Bonjour Nathalie Dessay.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en région parisienne. D'abord, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de cette maison, très très belle maison.
Alors oui, c'est une maison très vieille qui date des années 1890 et qui a été construite par un gars qui s'appelait Jules Corboz et qui était le bras droit de Garnier, qui a fait toute la statuaire de l'Opéra Garnier notamment.
C'est plein de fantaisie partout, c'est une maison originale.
Oui, c'est une maison très originale avec des hauts, des bas, des recoins, des petites pièces, des grandes pièces, des hauts plafonds, des bas plafonds. Et c'est une maison un peu tarabustée, comme je les aime.
Là, on est dans votre cuisine, salle à manger.
Ouais.
Et c'est gentil parce que vous m'avez préparé toute une sélection de livres.
Oui, c'est les livres du moment, on va dire. Soit que je viens de lire, soit que je suis en train de lire, soit que je vais lire.
Alors, il y en a un qui m'attire tout de suite l'œil, c'est Les enquêtes de Nicolas Le Floch par Jean-François Parot.
Ça, je suis Nicolas Le Floch à la trace. Depuis le début, j'ai tout lu, toutes les aventures, parce que j'adore les policiers. Moi, j'étais une fan absolue de Henning Mankell. Et depuis qu'il est mort, je suis extrêmement triste parce que je sais que plus jamais je ne lirai de Kurt Wallander.
Il y a Margaret Atwood là, qui a un gros succès en ce moment, La Servante Écarlate, il y a eu une adaptation en série.
Oui, moi je ne regarde pas les séries parce que comme j'ai une nature extrêmement addicte, je sais que si je commence, je ne vais plus avoir de vie, ni de nuit. Donc, je préfère les livres parce que les livres, on peut les prendre, les poser, les reprendre quand on veut et quand on peut. Donc, j'ai décidé de lire ça et on me l'a vivement recommandé. On m'a dit que c'était fabuleux à lire et que c'était, comme ils disent en bon français, « page turner ».
Qu'est-ce que c'est, Siegfried Lenz ?
Alors, Siegfried Lenz, ça, c'est un bouquin fondateur pour moi, puisque je suis germaniste, germanophile, germanophone depuis longtemps. Et donc, c'était un livre que j'ai découvert pendant mes études. Et ça s'appelle donc « La leçon d'allemand ». Et c'est un très, très grand livre sur ce que c'est que le mensonge, ce que c'est que l'art, ce que c'est que la dictature... Ce que c'est que la loyauté, c'est un bouquin initiatique absolument magnifique et que je recommande vraiment vivement. Et je recommande également, une fois qu'on aura lu Siegfried Lenz, de lire le Lionel Duroy qui s'appelle Échappé.
Qui est à côté.
Et qui est une espèce de quête par rapport au livre de Siegfried Lenz.
Vous lisez beaucoup ?
J'essaye de lire, mais je pas du tout autant que je voudrais. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Philip Sands, qui est un ami d'enfance de mon mari. Ça s'appelle « Retour à Lemberg ». Et c'est un
gros
très gros succès,
actuel,
très gros succès.
Chez Albin Michel.
Il se trouve qu'en fait, c'est une histoire fabuleuse, parce que Philippe est un très grand avocat international. Et lui, son histoire, elle commence avec son grand-père juif polonais à Lemberg. Donc... Et il a été invité pour une conférence dans cette ville à un moment. Il s'est un peu documenté. Il s'est rappelé que son grand-père venait de là. Et il s'est aperçu très vite que dans cette université de Lemberg, il y avait deux avocats qui sortaient de cette université dans les années un peu avant la guerre, qui ont tous les deux été à l'origine, l'un du concept de génocide et l'autre du concept de crime contre l'humanité.
Juridique. Mmh.
Voilà. Ce sont deux grands avocats qui se sont d'ailleurs retrouvés, mais sans vraiment se connaître, au procès de Nuremberg. Et il s'est dit, mais c'est incroyable, non seulement mon histoire personnelle est liée à cette ville, mais en plus mon histoire professionnelle aussi est liée à ça, puisque moi je m'occupe de ça, et je découvre par hasard que tout est parti de Lemberg.
On peut être un peu intrusif et visiter les autres bibliothèques.
Alors voilà, il y a des livres partout dans la maison.
Bah oui, c'est ce que j'ai constaté. Donc là on est dans un couloir avec dont la bibliothèque prend la moitié de l'espace.
Voilà. Donc là, il y a la Pléiade, il y a de la poésie. Ça, c'est quoi ?
Il y a des livres anciens. Et là, je vois un Edgar Allan Poe.
Voilà.
Ouais. Histoire grotesque et sérieuse.
Ouais, ça, c'est sublime.
C'est génial comme titre.
Ouais, c'est sublime.
Et cette association Baudelaire-Edgar Poe, c'est toujours... c'est beau, quoi.
Oui, c'est beau et c'est logique, j'allais dire.
On peut peut-être monter là-haut. Oui. Vous m'avez dit qu'il y avait une bibliothèque aussi.
Oui. Là, je voulais dire juste qu'il y avait plein de BD. Donc les Astérix, les Tintins... Les fluides glaciales.
Les kits paddle.
Les kits paddle, ça c'était les enfants quand ils étaient petits.
Oh, c'est beau ça.
Ouais.
C'est un disque quoi ? On vous voit avec.
Michel Legrand.
Michel Legrand.
Oui, c'est un disque d'or, non ?
Ouais, je sais pas.
Bah si. Entre elle et lui, on avait bien.
Oh, c'est lourd !
Bien vendu et donc. C'est
disque d'or.
Très jolie photo. C'était notre premier disque ensemble. Voilà, alors
qui
là on a tous les.
Un couloir,
oui,
encore.
Oui, un petit couloir. Avec, là, c'est beaucoup de...
Des polars.
De polars. Alors, j'ai tous les Connelly, évidemment. Tous les Fred Vargas. Beaucoup de Harry Kellerman. Ah oui, ça, c'est très, très chouette. Harry Kellerman, les histoires d'un rabbin new-yorkais. Très drôle.
Donald Westlake aussi,
oui,
c'est très drôle.
Oui, ça, c'est bien.
Chez Rivage.
Ah oui, j'avais commencé, je mets beaucoup à un moment les Camilla Läckberg, j'ai un peu laissé tomber là, parce qu'il y en a... Mmh. Mais il y a les Mankell aussi, beaucoup de Mankell, que j'adorais, Enig Mankell.
Ah, voilà. Vous avez tous là ?
Oui, j'ai tout lu, tout.
Le Dahlia Noir !
Ah ça, évidemment.
Oh, ben vous avez du Kazuo Ishiguro ?
Ben oui, pourquoi non ?
Le nouveau prix Nobel de littérature.
Eh ben, on n'avait pas attendu le prix Nobel pour acheter du Kazuo Ishiguro.
Ça vous a pas surpris ce prix Nobel ?
Pourquoi ça...
Non. Je sais pas, parce qu'on l'attendait pas, mais...
Non, ce qui m'a surpris, c'est Bob Dylan, surtout. Ça, c'était surprenant. C'est
et
plus
ça,
surprenant.
Et ça vous a plu, que ce soit Bob Dylan ?
Alors, je ne sais pas, parce que moi, le problème, c'est que je ne l'aime pas comme chanteur. Du coup, j'ai pas écouté ses textes. Mm. Donc, du coup, je peux pas juger.
Nathalie Dessay qui aime pas Bob Dylan,
C'est pas la pire de vos déceptions, hein, je pense. Parce que y a plein de gens que je n'aime pas.
Ouais,
enfin, qui ne me touche pas.
Mais Bob Dylan, c'est...
Mais oui, mais moi, je peux pas... Un chanteur qui chante... Je peux pas. C'est pas possible. Musicalement, ça heurte mon oreille. Okay, alors après, je dis pas que les textes sont pas bien. Ça, c'est une autre histoire.
Et vous aimez d'ailleurs les chansons à texte vraiment poétiques ou...
Moi, mon chouchou, c'est Nougaro.
C'est la musique.
C'est Nougaro, mon chouchou.
Ah, d'accord.
Mais oui, c'est-à-dire que c'est un poète qui chante avec une vraie voix, un vrai engagement... Voilà, ça c'est un chouchou pour moi.
Eh bien, on vous remercie beaucoup Nathalie Dessay de nous avoir accueillis. On va vous laisser sur ces notes de Nougaro.
Voilà.
Justement, entre musique et littérature.
Yes.
Merci Nathalie Dessay. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, dernier chapitre, et nous revisitons la bibliothèque magnifique et poétique de MC Solar. C'est parti.
Bonjour MC Solar.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. C'est bien parce que chez vous, c'est étonnant, mais on peut fumer. C'est rare maintenant les endroits clos où on peut fumer comme ça.
C'est important de fumer. On est enfermé, mais on a notre espace de liberté. C'est une des seules choses qui nous appartiennent. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le foyer. Il y a un lien avec le feu, donc on allume.
Mais on a l'impression de faire quelque chose d'interdit maintenant, quand on fume dans un salon.
Ça dépend toujours de l'ordre. On peut prier et fumer. Non, c'est interdit. Par contre, on fume et on prie. Là, le prêtre, il est content. Ça dépend de l'ordre où on met les verbes.
Est-ce que c'est un péché de fumer maintenant ? Social. C'est un péché social de fumer maintenant.
Non, la France est toujours rebelle, je trouve. On serait en Californie, dans un café ou dans un restaurant. Oui, parce qu'ils ont le culte du sport. Mais en France, il y a comme on appelle ça, toujours quand même la baguette. Il reste la bière. Quelquefois, des gens prennent du picon et ils font pas trop attention à leur, à leur santé, à leur corps.
Vous croyez vraiment que le picon, ça existe encore ?
J'espère. En tout cas, je suis allé dans un magasin et j'ai vu un truc qui s'appelle du viandox.
Ah oui.
Et donc, ça m'a mis dans cette période pchit, picon, viandox, vache qui rit.
Bon, on est dans votre salon, donc. Et il y a une belle bibliothèque. Elle a l'air très bien rangée, très bien cadrée. Mais si on s'approche un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ordre particulier, qu'il n'y a pas de classement particulier ici.
Il n'y a pas de classement, c'est un millefeuille.
Littéralement.
Ouais. On trouve des livres quelquefois. Alors ça peut être dans un aéroport, ça peut être et puis on les met quoi, les uns après les autres. Donc il y a de tout. Alors quelquefois j'ai des obsessions. Là par exemple il y a un gars qui s'appelle Martin Monestier.
Oui.
Et j'avais lu un de ses livres.
C'est des livres en grand format sur des curiosités diverses.
Ouais. Et j'avais lu l'histoire des saints ou bien l'histoire des cannibales, je sais pas. Et puis après, j'allais tout le temps en acheter, puis ensuite je les perds, mais après j'ai le souvenir, alors je vais les récupérer. Là, ça va, ils sont d'un certain temps.
Ouais, vous avez aussi, vous avez deux exemplaires.
C'est très important.
De l'histoire et bizarrerie sociale des excréments.
Oui, parce que je tente de les offrir quelquefois. quand il y a des livres que j'aime bien, un, je ne veux pas les perdre, et deux, quand je trouve qu'ils sont bien, c'est pour les offrir quand quelqu'un ne croit pas. Alors, il nous a fait l'histoire des saints dans le monde, l'encyclopédie historique et bizarre, des origines, des gorges, mamelles, poitrines,
pis autres tétons.
Et autres tétons. C'est-à-dire qu'il prend un sujet, il va le chercher depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, et ce sont des. Voilà, c'est un dictionnaire, une Bible, le savoir de quelqu'un.
Et évidemment illustré, hein, en grand format. Mais avec des illustrations un peu désuètes, en noir et blanc.
Mmh.
Les vieilles gravures.
1950.
Les saints des années 50.
Ouais. Le cannibalisme.
Les saints fermiers.
Alors les saints fermiers, qu'est-ce que c'est ?
Le docteur Borelli, au XVIIIe siècle, sommité médical de son époque, disait avoir connu une nourrice qui avait une si grande quantité de lait qu'elle allaitait deux enfants et en donnait encore assez à un apothicaire pour fabriquer du beurre. Tout est vrai en plus chez Monestier en général.
Oui, ça a l'air vrai. Hein.
Et cannibales, ça va être marrant ça aussi.
On apprend plein de choses sur les anthropophages. Il y a des scénarios de films.
Le cannibalisme involontaire. Mmh. Non, ça.
Ça veut dire qu'un jour, tu croyais manger un cassoulet et puis la personne a mis... Mais il y a eu plein d'histoires comme ça en France. Hein.
En 1984, nous avons rencontré un fonctionnaire international attaché à un service de la Communauté européenne de Bruxelles qui, pendant un séjour de 3 années au Zaïre, a régulièrement mangé de la viande humaine sans le savoir jusqu'au jour où son boucher a été arrêté pour assassinat multiple.
Voilà. Et je ne savais pas qu'il y avait aussi la même chose au Zaïre.
Et alors, juste à côté... Mais sans qu'il n'y ait aucun lien, vous avez deux beaux livres sur le cinéma, un sur les films des années 50 et un sur les films des années 80. Mmh. Pourquoi ces deux périodes qui vous intéressent particulièrement dans le cinéma ?
Toutes les périodes m'intéressent, mais quand j'achète ça, c'est pour nourrir mon savoir, nourrir ma créativité, retrouver des films, voir Raquel Welch, qui était la concurrente américaine des bimbos européennes, parce qu'on avait Claudia Cardinale, Bardot. Et là-bas, ils se sont dit, nous aussi, on a le droit de créer ces plantureuses.
Il y a beaucoup de choses. Et il y a un livre que je retrouve souvent dans les bibliothèques. Et en général, on me dit, celui-ci, j'ai pas réussi à le finir, c'est le livre impossible.
Ouais.
C'est Ulysse de James Joyce. Est-ce que vous avez essayé ?
Non.
C'est trop dur ?
Non. Pas commencé. Il est vieilli. J'ai dû l'acheter chez des bouquinistes à l'époque où j'étais germano-pratin. Et... pas commencer, ça va peut-être être ma mission.
Mais c'est le livre qu'il faut avoir pour le lire un jour, ou en tout cas se dire qu'on le lira un jour, quoi. Ouais. Et tant pis si on le lit jamais, au fond.
On dit à la recherche du temps perdu aussi.
Ouais. Justement, Proustien. Juste devant Proust, il y a les Victoires
de
musique.
Ça m'a inspiré quelque chose, ce Proust.
Ouais, c'est quoi ?
Si un jour je me lance dans cette chose, je vais raconter l'histoire d'une cuisinière à la campagne, et ça s'appellerait « À la recherche du pain perdu ».
Ouais, c'est bien.
Voilà.
Et juste devant Proust, il y a vos trophées, il y a les Victoires de la musique. Je peux ou pas ?
Bien sûr, tu vas voir le poids. Celle-là, elle fait 1 kg. Oh. 1 kg 5 ou 1 kg.
Plus que ça.
Fais voir. Faut imagine. Oh là là. Ouais, c'est 4-5 kg. cours ou 5 briques de lait, quoi.
C'est joli, c'est deux enceintes l'une face à l'autre avec une note de musique entre les deux.
Ouais, alors celle-là, c'est celle de 1994. Ouais. Artiste interprète masculin, donc elle est très ancienne. Et bon, c'était mon premier pas dans la musique, quoi. Et c'était c'était un très très grand moment. Oui, c'est deux. Ce sont deux vinyles, hein, des espèces de vinyles en bronze.
Vous vous en rappelez très bien, c'est dans votre mémoire ou c'est un moment un peu hors du temps qui est un peu flou du coup. Tellement
c'était dans ma mémoire, c'est-à-dire que je venais de Villeneuve-Saint-Georges, j'étais venu en train et en bus, je suis allé à cet endroit et puis à cet endroit-là j'ai pu voir des gens type Marc Lavoine ou Claude Nougaro, que des gens que je voyais à la télé, tu vois, et c'était...
Et qui vous disent bravo.
Bon, ils me disent pas bravo, mais juste les croiser dans les couloirs, c'est vraiment un truc totalement irréel. On se rend compte que les gens sont simples quand même.
Il y a beaucoup de choses très différentes. Sur l'architecture, il y a des romans.
Je veux savoir plein de choses.
Je cherche la poésie en fait.
La poésie.
Oh, vous voyez, avec plein de recueils de Rimbaud et tout ça.
Ah, ça, j'ai dit
ça.
J'ai
vu un Rimbaud tout à l'heure.
À l'époque scolaire.
Ah, bah voilà, une saison en enfer. Tiens, bah, ouvrier, ça me fait penser aux ouvriers qui mangeaient des sandwichs à l'omelette.
Sandwich à l'omelette. Oh, cette chaude matinée de février. Le sud inopportun vient relever nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère. Enrica avait une jupe de coton à carreaux blancs et bruns qui a dû être portée au siècle dernier, un bonnet à ruban et un foulard de soie. C'était bien plus triste qu'un deuil. Nous faisions un tour dans la banlieue. Le temps était couvert. Et le vent du sud excitait toutes les vilaines odeurs des jardins ravagés et des prés desséchés. Trois petits points, ça continue.
Est-ce que tu as des poésies que tu connais par cœur ou pas du tout? Tu préfères les avoir dans des livres et les retourner?
Alors c'est quelque chose qui est super important. Je vois, je rencontre quelquefois des gens qui connaissent plein de poésies par cœur. Moi, j'ai quelques poésies scolaires, mais il y en a une que j'aime beaucoup, que je retiens plus et qui est souvent la structure, bon, c'est un peu classique, de beaucoup de mes anciens titres avant que j'évolue. C'était René Guy Cadou qui avait ce « Je me souviens du grand cheval qui promenait tête et crinière comme une grappe de lumière dans la nuit du pays natal. Qui me dira, mon chien inquiet, ses coups de patte dans la porte, lui qui prenait pour un gibier le tourbillon des feuilles mortes ?» Maintenant que j'habite en ville, sans paysage, sans jardin, je pense à ces anciens matins tout parfumés de marguerites. Eh bien, très, ça a influencé beaucoup de choses. Obsolète, les temps changent, carpe diem, une espèce de constat, de regret, de choses. C'est...
Bon, alors... Vous essayez pas de vous faire un catalogue mental de poésie par cœur, quoi? Il y en a quelques-unes que vous connaissez, mais vous ne forcez pas à les apprendre dès qu'elles vous plaisent.
Non, je ne me force pas, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, avec l'évolution technologique, quand on aime quelque chose, on se l'enregistre, on se l'écoute, et comme une chanson de Caroline Loeb ou de Plastic Bertrand, ça y est, on l'a. Sauf que ce n'est pas une simple chanson, c'est une poésie bien rythmée. Je vais peut-être essayer cette chose.
Parce que dans les années 90, quand on était au collège, comme moi, tout le monde connaissait au moins une chanson par cœur de MC Solar, quoi.
C'est vrai que très tôt, c'est passé dans les écoles pour quelquefois apprendre la diction, quelquefois apprendre la ville ou l'urbain, et puis quelquefois faire la littérature, petite littérature comparée. Oui, j'ai souvent vu des gens me dire « Claude, est-ce que tu peux m'aider pour mon devoir ? Qu'est-ce que tu as voulu dire à tel endroit ?» Mais moi, c'était Brassens, souvent, qu'on chantait à l'école.
Non, parce qu'il y avait aussi un challenge de ceux qui connaissaient toute la chanson, y compris avec un flow parfois un peu rapide. Oui. Et c'était, il y avait un côté technique, un côté démonstration quand on connaissait toute la chanson et qu'on pouvait la faire dans le même rythme que MC Solar, quoi.
Il y en a beaucoup qui ont été faites pour ça. C'était pour mes nièces, etc. C'est pour ça que c'est assez rigolo. À des moments, il y a des mots avec des Z, des I, des assonances rigolotes.
Par exemple, tu te souviens d'une en particulier? Tu te souviens de toutes les chansons?
L'homme qui capte le mic et dont le nom possède le double A. Je connais toutes mes chansons, sauf une, où je ne connais pas le second couplet, et elle s'appelait le Western Moderne.
Ah bah ouais.
Non, Moderne.
Ouais, mais c'est un tube, ça.
Non, ça c'est le nouveau western.
Ah pardon.
Le western moderne, c'est un tout petit truc qui est très peu sorti et que j'arrive pas. On l'a fait comme ça un soir en studio. Mais c'était l'histoire du monde, comme dans un film de Sergio Leone. Les partitions ne sont pas des New Morricone. Il y a des cow-boys, il y a des Indiens, il y a le mal, il y a le bien. C'est dans le Dakota, dans une réserve parquée, que le dernier des Mohicans s'est retrouvé confiné. Massachusetts, Oklahoma, des noms sur des cartes qui nous rappellent cela. Structure René Guicadou. Puis il y a eu la ruée vers l'or, des milliers de pionniers dans un autre décor. Aujourd'hui, Wall Street en est la transposition, concentration autour du pognon, saccage, pillage, cambriolage, le seul avantage est qu'on touche davantage, tandis que dans le duel, on se devait d'être rapide, speed, sinon c'était du suicide. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je me rappelle pas parce qu'on l'a jamais enregistré, on l'a jamais... voilà.
Il y a des essais aussi, beaucoup, j'ai remarqué. Des essais de philo ou des essais de littérature. Il y a des philosophes. T'aimes la méditation comme ça, plus académique, au-delà de la poésie ?
Dès qu'il y a de la philosophie, c'est fantastique parce qu'on réfléchit avec la personne en lisant. Il nous donne des systèmes, des interprétations. Et là, c'est un moment où j'ai le sentiment d'avancer intellectuellement. Le lendemain, je vais boire une bière ou une vodka avec des gens, c'est oublié. Mais pendant un moment, on a le sentiment de connaître, l'humain, d'apprendre des choses. Mais chaque philosophe t'apprend quelque chose parce que tu réfléchis avec lui, tu acquiesces régulièrement parce qu'ils ont toujours des trouvailles. J'adore ça. Alors, les livres que je finis à tout prix sont les livres d'actualité. Comme il y en a, des trucs de policiers, des histoires d'actualité de la vie contemporaine. Ceux-là, je vais jusqu'au bout. C'est des histoires de temps. J'ai le sentiment d'avoir perdu certains éléments de l'histoire.
Ouais.
Quand je lis les livres en anglais, je mets les personnages dans les deux premières pages. Lui, c'est un tel, lui, c'est un tel, lui, c'est un tel. Comme ça, je ne suis pas perdu souvent dans les intrigues policières et tout ça. En anglais, hein, parce que... Voilà. Je me fais un espèce de résumé, quand je le reprends à n'importe quel moment, je vois quelle est la personne et voilà.
Ah, c'est une lecture organisée quand même.
Et je crois que pour ne pas abandonner un livre, pour moi, c'est ça.
Il faut mettre un peu de soi aussi.
Ouais, parce que sinon, j'ai le sentiment que si je le reprends 4 jours plus tard, je suis perdu. Le meilleur moment, c'est le train, parce qu'on sait qu'on a du temps et qu'on n'est pas dérangé.
Merci beaucoup, M. Solar.
Merci, c'était super.
Retour en studio, c'était la dernière page de cette Voix et Livre de l'été. Merci Héloïse,
merci
Sébastien,
Nicolas.
À dimanche prochain. Et merci Stanislas Rigaud à la librairie Lamartine de Paris. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres et d'autres bibliothèques. Celle de Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton, et celle d'André Manoukian. Ça va être bien, salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix et Livre.
Nicolas Carreau.